This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.
Vous écoutez
RMC.
PSG Nîmes donc 3-0, un peu inéluctable, à l'usure, on le rappelle, la physionomie, un missile de Cavani sur penalty, le 2-0 avec Kylian Mbappé, et puis ce 3-0 avec Di Maria qui, comme au Trophée des Champions, est rentré pour une dernière demi-heure, tout feu, tout flamme. Est-ce que... Allez-y, on y va sur la physionomie du match déjà, Damien.
On va commencer par ce qui est positif. Du côté du Paris Saint-Germain, on a tout de suite vu une équipe concernée qui a su à quoi s'attendre en ayant ce groupe. Nîmes a joué dans un 6-3-1. Ça, en fait, je l'avais rarement vu.
Alors, t'as rajouté un défenseur de plus.
On était à 5, mais parfois, on était même sur une ligne de 6, une 6 derrière. Et donc, justement, en positif, c'est qu'ils les ont eu à l'usure. Maintenant, il y a des aspects dans le jeu parisien où ça peut progresser, notamment, c'est là où je vais rebondir sur ton point, François, sur l'apport d'un arrière droit, Thilo Kehrer, parce que quand tu joues face à une équipe qui est avec une seule pointe en plus, Ripart, où la vitesse c'est pas son fort. Voilà, tu peux jouer avec des latéraux un peu plus haut. Bernat l'a fait. La preuve, il a fait passe décisive en deuxième mi-temps, même en phase d'attente en première mi-temps, il était plus haut sur le terrain. Mais en revanche, Sarabia se retrouvait bien seul. Et heureusement qu'on a affaire à un grand joueur qui est capable de partir pied droit, pied gauche dans ses éliminations, ce qui fait que ça crée de l'incertitude au niveau de la défense adverse, mais aucune aide de la part de Kehrer. Nombre de ballons joués de l'avant, je sais pas, que des ballons vers l'arrière. Donc voilà, le jeu peut, et surtout quand tu joues face à une équipe comme ça avec une grosse défense, il faut des dédoublements sur les côtés, passer dans le dos de ton milieu, et ça on n'a pas vu ça côté droit. Voilà, sur ce que j'ai vu. Et puis ensuite, écoutez, ça a déroulé hein, à l'usure. Et puis encore une fois, Nîmes, qui n'a pas joué sur ses points forts, qui aurait pu être la vitesse de Ferrat et de Philippe Otto. Malheureusement, on les a trop peu vus. Et parce que Ferrat aura pu mettre en difficulté Bernat un bon nombre de fois, je pense, avec sa vitesse.
Trois et Caen le savent tellement bien, cette deuxième saison qui est toujours plus dure. Perte de Savanier, Ferry, Bouanga, Tube. Deuxième saison, quand t'as fait une première saison en tant que promu, ce sera très compliqué pour les concours.
Ils ont terminé 9e. Sur le travail de SAP du Paris Saint-Germain, qui leur permet, comme tu dis, à l'usure, de débloquer la situation, on peut en discuter quand même. Parce que ça se fait via un pénalty. Alors... il est évidemment contestable, mais je pense que François et Kevin François a rappelé les nouvelles règles qui sont désormais depuis le 1er juin 2019 qui sont en place, qui sont exécutées par le corps arbitral. Clément Turpin ne s'est pas trompé. En revanche, et c'est aussi notre ADN, est-ce que la règle, pour autant qu'elle est appliquée, est-ce qu'on la trouve dans l'esprit du jeu? Et est-ce que, au fond, le Paris Saint-Germain, s'il n'y a pas, non pas ce coup de dé, ce coup du sort, parce que évidemment c'est à l'usure et on le sent venir, parce que la domination, elle est
Il a eu pas mal en première des occasions. Ouais.
Mais j'aurais bien aimé, par rapport à ce que les Nîmois ont proposé, parce que ce qu'ils ont proposé, c'est juste de défendre le plus bas possible.
Ils sont venus pour pas prendre une pilule, en fait. Mais mine de rien, ils la prennent quand même.
Quand même, en se disant peut-être que avec un moment donné, la fatigue ou une baisse de concentration, on aurait une opportunité. Peut-être qu'il aurait pu l'avoir en exploitant vraiment un peu mieux, même pas un peu mieux. Ils auraient dû être parfaits pour mieux les exploiter, les contres, mais ils n'ont pas réussi à l'être. Mais j'aurais aimé voir ce match se débloquer autrement que par ce fait de jeu.
Alors, t'y vas sans y aller. On va y aller, on va pas passer 15 points dessus, mais effectivement, voilà. Tu dis le corps arbitral, justement, parlons de cette histoire de corps. C'est vrai que c'est gênant, cette histoire de surface non naturelle du corps. Maintenant, Pablo Martinez.
C'est gênant, quoi.
Mais, c'est gênant, cet énoncé est gênant. C'est là que tu dis, même s'il y a des nouvelles règles, il va falloir les respecter parce qu'elles sont énoncées depuis le 1er juin. Maintenant, effectivement, on pense à cette surface dans la latéralité. Là, il la siffle aussi devant. Alors, ce que Thomas, dit Pablo Martinez est justifié, il dit j'essaye de me mettre loin de l'adversaire pour prendre...
Ce qui est gênant, mais on en a déjà parlé, on va en reparler toute la saison, mais même ça va peut-être nous faire les deux saisons à venir, parce qu'il va falloir quand même qu'on accepte ça, que ça rentre comme une pilule à défaut, peut-être même pire, un suppositoire, c'est que c'est pas l'esprit du jeu. C'est l'esprit pour le corps arbitral de plus se protéger, de laisser un peu moins de place à un spectre plus large de l'interprétation. Le ballon va à la main, c'est pas un penalty. La main va au ballon, c'est penalty. Ça, c'était avant. C'est terminé, les amis. Et toi, t'as été joueur.
Bien sûr que c'est frustrant.
T'as été défenseur.
Bien sûr que c'est frustrant.
Tu sais à quel point ces nouvelles normes sont en train de modifier votre,
le
votre
comportement.
Jeu. Ta carrière est terminée.
Mais justement,
on va à l'encontre de l'esprit du jeu.
Tu dois former. Au centre de formation, il faut que tu formes tes joueurs différemment en fonction de la règle à appliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une règle, elle est claire, elle est simple, elle est contre l'esprit du jeu, peut-être. Là, il y a eu des changements de règles sur les 6 mètres, les remises en jeu, qui vont dans un esprit de jeu, justement, où les joueurs peuvent...
Oui, ça, voilà, en revanche,
et ben voilà, ça va dans l'esprit du jeu. Là, il y a une règle qui va contre l'esprit du jeu, certes, mais c'est une règle. Et c'est une règle, et il faut l'appliquer.
Elle est fondamentale.
Par contre, là, moi, où, je voudrais revenir sur un point, c'est qu'il faut l'uniformité. Et surtout, ils ont décidé de faire cette règle, mais que les arbitres l'appliquent. Parce que hier, quand tu fais le match Clermont-Lens...
Oui, mais non.
Ouais, mais regarde,
non, on se contredit, là.
Non, parce que regarde, t'as le match Clermont-Lens si. Hier, et textuellement, sur la règle, c'est marqué que même si le ballon vient d'être touché par un coéquipier ou un adversaire se trouvant à proximité et que le ballon touche la main, il
n'y
a pas pénalty. Et hier, ça a été sifflé penalty à Clermont.
Alors, c'est pas une erreur d'interprétation, parce que ce que tu viens d'évoquer, et c'est là où ça me pose problème, moi, c'est que ce que tu viens d'évoquer, ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une question d'application stricte de la règle.
Et
c'est une erreur.
C'est une erreur
de l'arbitrage.
On a a priori le meilleur gardien ce soir, le meilleur arbitre, pardonnez-moi, ce soir. C'est le problème d'uniformité. Mais toi, justement, quand tu étais à défendre dans les 6 mètres, tu ne te posais pas cette question d'avoir les bras dans le dos, comme on peut se la poser depuis une saison ou deux. Je vais même aller plus loin aux États-Unis. Pour permettre un festival offensif, peut-être pour permettre de voir davantage de buts, la ligne offensive en football américain n'a le droit que de repousser, alors que les défenseurs peuvent carrément faire hippon. Donc les défenseurs sont de plus en plus amputés dans un duel face à un attaquant dans les 6 mètres.
On avait des consignes, parce que la VAR, en fait, aux États-Unis est intervenue un an ou deux avant. On est le premier pays à avoir eu la VAR aux États-Unis. Et le coach nous disait, mais écoutez, c'est simple, en fait, je vous demande aujourd'hui, dans la surface de réparation, de mettre vos mains derrière le dos. Vous mettez vos mains long du corps derrière le dos.
Mais tu peux pas défendre comme un Playmobil.
Mais tu faisais en sorte que sur les centres, voilà, tu ne te pouvais plus te jeter. Tu devais juste rester comme proche du ballon, sans les bras écartés.
Non, mais quand le coach vous disait ça, Damien, vous disiez, coach, vous êtes malade. Vous avez
mais non,
pas
mais
foot.
Tu es obligé aujourd'hui. Il faut t'adapter à la règle. Encore une fois, t'as une règle. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte ou on défend
encore
comme avant?
La règle ne dit pas d'avoir les mains collé au corps, Damien. La règle, elle dit deux choses depuis le 1er juin.
D'augmenter la surface corporelle.
Augmentation de la surface corporelle de manière
non naturelle.
Donc, on est dans l'interprétation toujours. Sauf que le champ de l'interprétation, il s'est très sensiblement réduit. Moi, c'est ça qui m'emmerde. Et la deuxième chose, c'est que si ton bras, la ligne de ton bras est au-dessus de ton deltoïde, au-dessus de ton épaule, c'est pas naturel.
Damien, tu t'es senti 30-40-50% moins bon une fois qu'on t'avait enlevé tes bras qui te permettaient d'être équilibré.
Non, c'est juste, c'est pas t'es moins bon, t'es plus fort. Est-ce que tu dois t'adapter? De toute façon, c'est comme ça. Sinon, on siffle le penalty. Tu préfères quoi? Tu t'adaptes ou qu'on siffle le penalty à chaque fois?
Tu dois t'adapter.
Tu t'adaptes. Mais c'est la règle qui veut ça.
On est là pour aussi faire du débat et on est dans nos opinions, Damien. Mais on peut dire que ces nouvelles règles-là ne protègent pas le jeu. C'est mon avis. Elles protègent les arbitres. Et ça m'ennuie un peu. Et Dieu sait si je les respecte. Et certains, dont Clément, je les connais un peu. C'est le meilleur français,
Regarde la main de Liverpool-Tottenham comment il s'appelle
De Moussa Sissoko. C'est la nouvelle règle. Le bras au-dessus du niveau de l'épaule.
Mais tu es obligé de siffler main.
Et nous verrons des scores sans doute.
Mais obligé de siffler main. Mais c'est emmerdant par rapport à...
Et nous verrons des scores sans doute plus fleuve avec ça. On va retrouver Arthur au 32-16, qui est rassuré. Bonsoir Arthur, par la prestation du PSG.
Bonsoir Lafter. Alors oui, moi je suis plutôt rassuré rassuré peut-être pas autant, mais je suis satisfait de ce match, de ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. J'aurais bien voulu en voir un peu plus en première. C'est vrai que ça jouait pas beaucoup. On a beaucoup laissé les Nîmois jouer. Puis ça s'est débloqué sur ce penalty. Bon, on va pas revenir dessus. Hein. Moi, je pense que va falloir s'adapter aux nouvelles règles, même si elles ne sont pas dans l'esprit du football. Après, en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé l'entrée de Di Maria, qui tout de suite s'est bien impliqué en allant marquer le troisième but. Mbappé aussi, qui a été très intelligent. Déjà, il met un très beau but après un très bon travail de Bernat. Et j'ai bien aimé aussi l'implication d'Mbappé sur le troisième but, qui a tout de suite fait la passe pour Di Maria, alors qu'il y a quelques mois, il aurait pu tenter une frappe directement. Donc là-dessus, je suis satisfait pour notamment du match d'Mbappé et de Bernat.
Moi, j'aimerais bien mettre, si tu permets, en lumière un Marquinhos. Regarde le deuxième but justement où Bernat.
L'ouverture de Marquinhos.
Et ben ça te rappelle pas le but de la semaine dernière contre en Trophée des Champions où justement il met un petit ballon piqué par-dessus la défense sur Sarabia qui la remet en une touche à Mbappé qui l'a marqué.
Exact, ouais. Très bon parallèle avec ce but là, c'était
c'est la même chose de l'autre côté et justement face à des défenses comme ça peut être une solution, et puis en plus de ça Marquinhos qui est capable de mettre des ballons comme ça, c'est super intéressant pour cette équipe.
C'est surtout l'appel de Bernat, parce que l'appel il vient vraiment vraiment de loin, et si Kerrer, je sais pas s'il t'est sorti à ce moment-là, s'il peut regarder le match et s'en inspirer, ce serait pas plus mal.
Arthur, est-ce que
est-ce que
Di Maria, comme au Trophée des Champions, fait une superbe fin de match, parce qu'il y a encore un très bon travail de Sap et une très belle heure de Pablo Sarabia.
Sarabia excellent encore, ouais, j'ai beaucoup aimé, donc très intelligent, très impliqué. Di Maria dès qu'il l'a remplacé, très bon, il s'est tout de suite impliqué. Après, moi, il y a un joueur que j'ai vraiment trouvé fantomatique, c'est Draxler.
Justement, moi je pensais qu'il allait sortir pour Di Maria et que Sarabia aurait pu jouer justement à la place de Draxler, et en laissant Di Maria, comme ça a été le cas au Trophée des Champions d'ailleurs. Mais en effet, j'ai trouvé que Draxler avait pas assez d'influence encore, qu'il doit avoir plus de ballons et plus du jeu.
C'est pas là où il a vraiment la possibilité d'afficher ses qualités. Pour moi, c'est sur un côté, et offensivement ou dans l'axe. Quand tu le voyais à Wolfsburg, il jouait sur les côtés.
Ça ou Schalke, côté plutôt un vrai plutôt attaquant côté de côté.
Mais bon, vu la concurrence au Paris Saint-Germain sur les côtés. Compliqué pour lui. Mais...
Arthur, on te remercie. On va prendre tout de suite Aubin, parce qu'on fait du joueur par joueur. On fait un petit peu cette revue d'effectifs. Bonsoir Aubin, t'es avec nous.
Bonsoir Aubin.
Bonsoir l'after, bonsoir tout le monde.
Salut Aubin.
Sur qui tu veux te focaliser, Aubin?
Bah écoutez, moi je vais me focaliser sur mon préféré, c'est Verratti. Alors je vous explique, moi j'étais au TAD, hein. J'étais au match. Mm-hmm. Il y a un truc que Verratti fait qui est affligeant, c'est son échauffement. J'ai regardé tout son échauffement, que ce soit la partie avec ballon ou sans ballon. Encore avec ballon, ça faisait un peu professionnel, ça allait. Sans ballon, je vous assure, ce joueur-là ne sera jamais un grand joueur. Moi, je l'adore. Avec Cavani, c'est mon préféré du PSG, il n'y a pas de souci. Mais ce ne sera jamais un grand joueur. À s'échauffer comme ça, on dirait Ben Arfa, il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait des cassettes sur lui qui étaient pas mal, qui a fait qu'on fait rire.
Il faudrait qu'on sache qui tu catégorises parmi les grands joueurs chez les 6. Pour voir si Verratti a besoin de rentrer dans la catégorie auquel toi tu veux le rentrer.
Tu mets Pirlo, tu mets Deco.
Alors, il sera jamais Pirlo ni Deco. Oui, ça, on est tous d'accord avec toi.
Aubin, tu sais, je veux dire, un échauffement quand t'es joueur, c'est vachement personnel. Je veux dire, t'as des joueurs qui vont avoir besoin de faire des sprints à l'aller-retour, de se mettre minable pendant un échauffement, et t'en as d'autres. Bah eux, ils préfèrent faire rentrer dans le match comme ça. Donc si tu veux, c'est une situation qui est un ressenti qui est très personnel quand tu es joueur. Et puis
il faut que tu sois bon l'échauffement pour être un grand joueur peut-être plus tard.
Mais
je voyais pas l'échauffement de Pirlo ou de Deco.
Et je peux dire que Pirlo, tiens, quand on a joué contre lui quand tu étais à New York City FC. Ah, c'était plus la main dans les cheveux, le brushing que.
Ce qui est dingue, c'est qu'on est
à New York, c'était la fin de sa carrière.
C'est vrai, bien sûr, mais bon. Tu sais, ça a jamais été Pirlo, un mec qui taclait tous les côtés et qui se mettait ultra minable.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi à 100%. Ça dépend des joueurs, il n'y a aucun souci. Mais je t'assure que Verratti. Ça va l'impression d'un élève en terminale avec son prof de PS.
Aubin, si après tu veux nous dire que, compte tenu du match qu'il fait ce soir, pour moi c'est le meilleur Parisien,
j'ai mis dans mes 3 points.
Si en plus de ça, il aurait réussi, ou il aurait voulu faire plutôt, un échauffement très poussé, Ouais, bon, si tu veux, mais moi l'échauffement je m'en tape. Compte tenu du match qu'il fait ce soir, franchement, ça nous va très bien.
Ce qui est dingue, Robin, avec François, c'est qu'on est.
Deuxième point.
Oui, vas-y.
Très rapidement, par contre, faut qu'on fasse un truc. Thilo Kehrer, le pauvre, on l'aime pas, on le siffle et tout, mais il a rien à faire là, le pauvre. Il a pas le niveau. Qu'on arrête, ça y est, Thilo Kehrer, qu'on arrête, ça y est, stop.
Ouais, allez. Tu nous permets une transition, Robin, c'est parfait. On était ébahis par les prestations de Verratti, que ce soit au Trophée des Champions ce soir. Et effectivement, bon, il fait son entraînement à sa manière. Mais merci, Robin, ça nous permet d'enchaîner. Effectivement, salut, parce que j'ai envie de vous poser cette question. Ce 11-là est-il amené à bouger, notamment avec ce poste une nouvelle fois de latéral droit, où Thomas Meunier est rentré sur la fin, mais Thilo Kehrer n'a fait que des passes en retrait.
Oui, et oui, alors oui, à bouger, parce que on n'est qu'à la première journée de ce championnat. Et puis bon, et des joueurs comme Kimpembe, par exemple, sont out. Herrera, malheureusement, pour le Paris Saint-Germain, bon, s'est blessé, donc on verra s'il revient, et s'il revient à poste de titulaire d'ici 3-4 semaines, c'est ça. Après, Thilo Kehrer. Alors, Thilo Kehrer, on l'a vu dans l'axe, pendant la préparation du Paris Saint-Germain, il n'a pas été convaincant. On le revoit ce soir au poste qu'il a occupé pendant toute la saison à Paris, latéral droit. Je ne l'ai toujours pas trouvé convaincant.
Je revois Van der Ville quand c'était un peu le maillon faible.
Ah, mais même Van der Ville, je le trouvais meilleur que Kehrer. Voilà, en fait, je ne comprends pas, surtout par rapport à la concurrence qui est la sienne au PSG, donc c'est-à-dire celle de Meunier, comment Kehrer, et pourquoi plutôt, pas comment, mais pourquoi Kehrer et 8 fois sur 10 titulaire à la place du Belge.
Ouais, comme le dit François, quand tu regardes le match et au bout de 25 minutes, 30 minutes et que tu fais une fixation sur Kehrer, et c'est là où je vous pose la question, mais il a fait combien de passes vers l'avant alors qu'il avait plein de possibilités, et tu joues encore une fois contre une équipe qui joue à un seul attaquant et tu en profites même pas pour aller au-delà de ta fonction de défenseur latéral, mais va aider un peu, va aider ton copain et fais-toi plaisir avec le ballon. Je sais pas, moi,
on a l'impression une fois avec Sarabia,
avec un frein à main et le problème c'est que on se connaît pas son poste, parce que axial c'est pas top, arrière droit c'est pas top. On l'a même vu jouer en équipe d'Allemagne, même contre l'équipe de France, je me souviens, c'était un système à 5 et il jouait sur le 5e côté droit. Il apportait rien offensivement. Ah, aujourd'hui, quand t'as un latéral qui apporte pas grand chose contre une équipe qui joue à 6 derrière.
Et qui défend mal. Et qui défend vraiment mal.
Mathieu, au 32-16, nous dit Kehrer a une catastrophe. Bonsoir, Mathieu.
Ouais, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Salut, Mathieu.
Mais justement, parce que vous parliez des latéraux, mais je savais pas si vous étiez informé pourquoi j'ai appelé. Justement, pour moi, c'est une catastrophe. C'est un problème récurrent au PSG. Bah, vous parlez de Van der Ville, etc. Donc moi, on se moquait de Bernard Mendy, mais je pense qu'il était meilleur que Kehrer. On avait même Ciara. Je pense que Ciara, c'était le meilleur arrière droit qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Je suis pas sûr, mais je pense. Parce que Aurier, bon, bah, on sait ce qui s'est passé avec l'affaire Telescope et tout. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le petit Dagba. Donc là, on a Meunier. Donc est-ce que Tourelle, il a une dent contre lui? Je sais pas pourquoi.
Est-ce que c'est une dent contre Meunier ou est-ce que c'est Tourelle né en Allemagne, Tourelle allemand, entêtement à ce niveau-là?
Non, Thomas, ils ont le même agent. C'est juste ça, on peut dire. Ils ont juste le même agent. Après, né en Allemagne,
ce qu'il avait vu avant.
Mais bon, la passe en retrait pour Lukaku contre Manchester, il l'a assumé. Et là, bon, on va pas. Contre Nîmes, ça passe ce soir. Mais là, contre Liverpool, n'importe qui, on prend le bouillon avec un.
Non, mais même contre Lille, ça suffit, tu sais. Contre Lille, c'est compliqué. Mais pour en revenir, ouais, sur le cas de Kehrer, c'est quelqu'un qui est là depuis un an maintenant. Je veux bien l'excuse de la première année. On peut dire, allez, il faut qu'il s'adapte à un nouveau pays, à un nouveau club ou à ces grosses pressions. Mais là, cette année, tu dois tout casser normalement. Et il faut que tu prennes une autre envergure que ce que tu proposes actuellement.
Tu peux même pas donner
un dédoublement.
Moi, je m'en rappelle d'un France-Allemagne.
Tu peux même pas donner l'excuse de la première saison, je trouve.
Oui, Mathieu, France-Allemagne, t'avais des références, Mathieu.
Je m'en rappelle d'un France-Allemagne au Stade de France. Kehrer était titulaire. C'est Joachim Löw qui l'avait mis. Même moi, j'étais surpris parce que je crois qu'il y a Kimmich. Il était peut-être blessé ou quoi, qui est meilleur. Et il avait fait un gros match. D'ailleurs, il avait mis un taquet à Mbappé. Je sais pas si vous vous souvenez.
Jour-là, il jouait à 5 derrière l'Allemagne. Et il jouait côté, je crois qu'il n'avait pas fait un centre.
Hein, il n'était pas rentré. Là, il avait la grinta, mais franchement, au PSG, c'est une cata. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est quoi? C'est le petit Dagba. Moi, franchement, il a fait une super saison. Limite, il est meilleur que Kehrer, quoi. Mais je pense que, le mercato, il n'est pas fini, mais je pense qu'au poste de latéraux, faut. Après, la Bernat, Franchement, c'est magnifique, la petite passe en retrait pour Mbappé. Mais après, bon, on va pas parler de Kurzawa, j'appelle pour l'acquéreur, machin, mais les latéraux, on a un gros problème, quoi.
C'est vraiment... là, vous pensez souvent au Titi, mais avant de parler de Dagba en choix numéro 3, il y a Meunier déjà.
Il y a Meunier.
Ouais, Meunier, oui, je suis d'accord, mais moi, je pense que Meunier, c'est le titulaire, et après, c'est Dagba.
Mais Meunier, faut le remettre dedans. Faut le remettre parce que, voilà, il est en fin de contrat, là, à la fin de la saison. Et lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? On compte pas sur moi. Donc, en gros, je suis un peu la solution par défaut jusqu'à présent. Voilà, il faudra peut-être lui témoigner un peu plus de respect.
Damien, on prend.
Est-ce que Tourelle a envie de le remettre dedans?
On prend, tiens, avec l'auditeur, sur Thomas Meunier. Est-ce que techniquement, il est moins bon que Kerrer?
Non.
Non. Est-ce que physiquement, il a plus d'impact que Kerrer?
Oui.
Oui. Est-ce qu'il défend mieux que Kerrer?
Oui.
Oui. Et est-ce que, par rapport au poste de latéral, est-ce qu'il a un tank accroché aux pompes? Non.
Il te coûte moins de carton aussi.
Ah, mais surtout, offensivement, il sent vraiment les coups.
C'est la simulation de Neymar, en fait, sur Meunier. En fait, ça a coûté ça à son poste au PSG, on dirait. Mais bon.
Honnêtement, c'est ce que je me demandais, si l'extra sportif, mais au niveau mondial de Thomas Meunier, pouvait lui coûter des choses. Maintenant, l'impact de Neymar l'an dernier, il est plus que minimisé. Hein. Il y a eu des pancartes et des banderoles hostiles à son égard ce soir. Merci, Mathieu.
Dédicace à mon pote Joe, s'il vous plaît.
Eh ben, casse dédié à Joe alors.
Eh ben, casse dédié à Joe de Montpellier. Il vous écoute tous les soirs et il vous kiffe. Et l'after, vous êtes les meilleurs. Merci encore.
Merci beaucoup, Joe et Mathieu. On vous remercie. Vous continuez de réagir, évidemment, au 32-16 ou sur le hashtag RMC Live. Oui, ce 11 est amené à bouger. Déjà, on a deux pas de gauche. Sarabia, je vais y arriver. Sarabia, Di Maria. Ça, c'est acté, mais quid du futur
pour ce 11. Di Maria. Moi, le Di Maria contre Rennes et le Di Maria de ce soir, même si c'est des bouts de match, Damien, mais ce Di Maria-là, tu le prends et les gars, vous le mettez dans le formol, mettez une petite cloche dessus et vous n'y touchez plus. Je pense qu'il est en feu.
Di Maria, ce joueur, il est obligé de sentir qu'il y a du monde derrière lui pour lui mettre un peu le feu aux fesses.
Et de l'amour devant.
Pour qu'il se bouge devant.
Ouais.
Pour qu'il se bouge. Parce que là, il y a Sarabia. Il sent le vent dans le dos. Donc, il est productif. Il a été productif l'année dernière à partir du moment où Draxler est arrivé aussi. Souvenez-vous, parce que avant que Draxler arrive, mais on n'en voulait plus de Di Maria au PSG. Disait, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'était un fantôme pendant les matchs. Il est capable.
À Manchester, il arrive avec un transfert de dingo. Il passe complètement au travers parce qu'effectivement, il y a cette dimension physique en plus.
Et ne pas oublier l'histoire du poste aussi. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer comme il jouait au Real. Il était très performant en milieu relayeur. Et c'est peut-être ça l'avenir pour lui.
Très peu au PSG. Moi, j'ai pas le souvenir d'un match où il joue
au PSG, mais au Real.
Mais il est champion d'Europe en jouant à ce poste-là.
Exactement.
On l'a pas utilisé. Ni Unai, ni Thomas Tuchel ne l'ont utilisé dans ce registre-là. Même pas en championnat, je pense.
Mais là, ils ont une doublette quand même entre Sarabia et Di Maria. Ils ont du choix.
Tu peux même le faire jouer. Tu peux même le faire dépanner côté gauche. Tu pourrais presque l'associer aussi dans l'axe. Séville, c'est un joueur qui pouvait jouer, alors pas un ailier vraiment côté gauche, parce qu'il pouvait jouer avec deux attaquants, parce que c'était plutôt Luis Muriel qui jouait sur la gauche, mais c'est un joueur qui peut prendre l'axe, c'est un joueur qui peut décrocher. Bref, c'est un peu un couteau suisse, Sarabia, mais un couteau suisse qui fait les choses bien, voire très bien.
Et quand t'es défenseur, et la différence qu'il y a entre ces deux joueurs, Di Maria, tu sais que 9 fois sur 10, il va partir sur son pied gauche. Et là, on voit que Sarabia, ça le dérange pas de partir à droite et de centrer avec son pied droit.
Hein. C'était cette association, Ben Yedder, Sarabia. Et c'est une association qui a permis assez vite de voyager.
La répartition des attaques, elle est tout à fait équilibrée. 32, 33, 34, quand je vous parle de ces chiffres, c'est des pourcentages sur les côtés. Et dans l'axe, j'ai émis ça et j'ai entendu, t'as dit pas d'accord. Mais est-ce qu'à un moment, Cavani n'est pas un petit peu oublié? La chasse au but pour Kylian Mbappé n'est pas un petit peu vite enclenchée? Il y a un oubli à 10 minutes de la fin?
Non, je crois pas. À un moment donné, il fait un centre tendu, Kylian, sur la première période et Cavani la reprend, mais mal. Le ballon va mourir comme ça au second poteau. Non, j'ai trouvé un Mbappé qui a respecté le jeu et donc le jeu de ses partenaires. Je l'ai pas trouvé égocentré dans son jeu. Après, non. C'est un attaquant, il va aussi penser à sa gueule à un moment ou à un autre.
Alors, je sais pas si je serais aussi catégorique que toi sur ces pensées-là, parce que pour moi, le plus beau geste d'Mbappé
c'est la passe sur
Di Maria. Mais pourquoi?
Tu reviens à ce que je dis.
Non, je vais te dire pourquoi après. Je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il se sert de l'appel de Draxler. il prend pas la première solution de Draxler qui emmène tout le monde parce qu'il aura pu la mettre à Draxler. Il la met à Di Maria derrière. Le problème, c'est que derrière, il a la même situation. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il se fait mal sur la frappe. Il a juste à mettre un tout petit ballon à Di Maria à côté. Et c'est la même chose, ça fait but.
C'est l'oubli à la 80e, là, à 10 minutes de la fin.
C'est ça. Et après, sur le positionnement de d'Mbappé, voilà, qu'il soit à gauche ou dans l'axe, de toute façon, il finit dans l'axe et ça fout un bordel pas possible dans la défense adverse. Il est capable de donner, de redemander. Et en première mi-temps, c'est lui qui faisait les changements de rythme.
This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock, making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.